Jean-Paul Morey est un ancien médecin de famille à Argentat et il fait partie de ces personnages qui ont marqué des générations de patients par son amour de l'art médical et son engagement auprès des patients. Aujourd'hui à la retraite, il garde un regard acéré sur ce monde de la médecine qui continue de le passionner et il n'a rien oublié de sa longue carrière. Jean-Paul Morey, pour un médecin de famille, un médecin à l'ancienne entre guillemets, une des plus belles choses de son art reste l'accompagnement des accouchements. Est-ce que vous en avez pratiqué beaucoup dans votre carrière des accouchements ?
J'ai fait quelques accouchements, une douzaine à peu près, qui m'ont laissé beaucoup de souvenirs, ça c'est vrai, et qui m'ont donné des relations très particulières et des privilégiés avec les familles. Quand on met au monde les enfants, qu'on soigne les grands-parents, qu'on soigne les parents, qu'on soigne toute la tribu, ça compte beaucoup.
On peut dire votre âge aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Hein, 78.
78 ans, oui. En 2024.
Voilà.
Alors ça veut dire que vous avez fait vos études dans les années 60-70 ?
J'ai commencé ma médecine en 63, j'ai terminé mes études en 69, j'ai fait des remplacements du docteur Peralbe à Argentat.
Voilà. Elle qui était très connue. Hein.
Ah, ben, le docteur Peralbe était maire et conseiller général, très connu ici, très occupé, donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'un remplaçant attitré. À l'époque, j'étais marié, père de famille, et le salaire d'interne à l'hôpital était la moitié d'un SMIG. Donc, j'étais nourri et logé, mais quand même, juste.
C'est un peu léger.
Voilà, donc il fallait que je travaille, et c'est comme ça que je suis venu à Argentat.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu médecin ?
La vocation.
Parce que ce n'est pas une affaire de famille. Hein.
Non, absolument pas une affaire de famille. Mes parents étaient dans l'éducation nationale. Ce n'était pas du tout une affaire de famille, mais c'était la vocation. Je crois qu'on fait médecin, on disait souvent ça avec les copains en rigolant, comme on rentre dans une cure.
Ou dans les ordres.
Dans les ordres,
ouais, voilà. Parce que c'est une vie d'engagement. On va en reparler, hein, Jean-Paul Morey, de tout ça. D'abord, vous avez fait vos études où ?
J'ai fait mes études à Bordeaux, parce qu'à l'époque, mon père était inspecteur d'académie de Bordeaux. Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux. Très naturel.
Ce qui est amusant, c'est que vous avez aussi côtoyé là-bas d'autres personnes de votre âge qui, à l'époque, étaient étudiants. Et vous avez des souvenirs d'étudiants, on ne va pas dire son nom, mais avec, par exemple, un dentiste d'Argentat. Vous avez été avec lui.
Oui, bien sûr. Oui. Les souvenirs d'étudiants ne sont pas toujours discibles à la radio. Mais en effet, j'étais très ami avec Michel Ozoulou, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire, puisqu'il était avec moi et à l'époque, il n'avait pas de voiture. Donc, quand je venais en Corrèze, je le ramenais à Argentat. C'est comme ça que j'ai découvert Argentat, d'ailleurs. J'y étais passé en touriste, mais...
Est-ce que vous êtes un Corrézien de la Haute-Vallée de la Dordogne, hein, Neuvic-du-Sel ?
Voilà. Le berceau de la famille Morey est à Neuvic-du-Sel, oui, tout à fait.
Dites-moi, quand on est jeune médecin, qu'on a envie de fonder une famille, il faut se dépêcher, comme on dit, de visser sa plaque, de s'installer. Visser sa plaque, c'est-à-dire votre plaque en cuivre, qui est toujours place de l'église, vous ne l'avez pas dévissée.
Non, je ne l'ai pas dévissée, parce que comme ça, le facteur, c'est où j'habite.
c'est comme s'il en avait besoin. Vous l'avez vissée en quelle année, la plaque ?
Je l'ai vissée en 1972. Alors le jour exact où je l'ai vissé, je ne sais pas, mais j'ai ouvert mon cabinet le 17 février 72. Et je peux dire aux gens d'Argentat que c'était un jeudi.
Un jour de foire ?
Voilà, un jour de foire.
Il y a eu du monde alors ce jour-là ?
Voilà, et j'étais très content parce que j'avais eu 12 consultations le matin et 12 consultations pour un premier jour d'ouverture. C'est un beau succès pour un jeune médecin.
Alors, il faut faire sa place ou vous avez repris un cabinet ? Parce qu'à l'époque, chaque patient avait son médecin et il ne fallait pas mélanger. Hein.
Voilà, exactement. Et moi, je n'ai pas pris la suite du docteur Peralbe, puisque le docteur Peralbe va continuer à exercer après que je sois installé. Et, mais j'avais beaucoup de clients que j'avais connus chez le docteur Peralbe, que j'avais remplacé pendant 2 ans, et, donc ils sont venus chez moi. Le docteur Peralbe, à l'époque, devait avoir dans les 70 ans. Donc, il faisait ça un peu pour se distraire. Donc, ses clients sont venus chez moi spontanément. Et puis la réputation faisant que je faisais des accouchements, que je faisais des électrocardiogrammes, que je faisais des radiographies, etc. Les gens sont venus chez moi.
À propos de gynéco, ça, c'était votre passion, la gynécologie. Vous auriez pu être gynécologue, hein ?
Oui, j'aurais pu, mais j'ai eu un choix à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'étais très intéressé par l'obstétrique, donc il fallait que je fasse un choix entre ma femme ou les femmes. J'ai choisi ma femme, parce qu'il fallait que je gagne ma vie, parce que j'étais marié, père de famille.
Et elle a travaillé avec vous, votre femme? Alors, elle a travaillé au cabinet?
Alors, ma femme a travaillé, bien sûr. Ma femme prenait les rendez-vous, répondait au téléphone le matin, donc elle connaissait les clients aussi bien que moi au bout d'un certain nombre d'années. Quand je faisais des radiographies, eh bien, elle développait la radio. Donc, elle m'a assisté, oui, ça c'est certain, elle m'a assisté tout le temps.
Et alors, question idiote, mais quand vous avez pris la retraite, mais ça, on avance un petit peu vite, mais juste cette question, quand vous avez pris la retraite, pour elle, ça a été dur aussi ou pas?
Il faudrait lui demander. Vous savez, mon cher Vité, parler à la place des femmes est très dangereux à l'heure actuelle. Donc, on ne va pas le faire.
Vous étiez à l'époque pas plus nombreux qu'aujourd'hui?
Non. Alors à l'époque, j'ai compté, quand vous m'avez posé la question, j'ai compté, on était 5 médecins argentins, comme maintenant. Voilà. Mais nos horaires de travail n'étaient pas tout à fait les mêmes. Parce qu'en effet, quand je me suis installé, il n'y avait pas de tour de garde. Donc on travaillait jour et nuit, du lundi matin au samedi soir. Et le samedi était un très gros jour, pour la bonne raison que à l'usine Lucas, à l'époque Blocfer maintenant, les gens travaillaient jusqu'au vendredi soir très tard. Donc le samedi était le seul jour de libre dans la semaine, ils en profitaient pour aller voir le médecin, pour les hommes.
Et donc vous aviez le dimanche pour vous, et alors un jour dans la semaine, je ne m'attendais pas du tout, c'est pas le lundi que vous preniez?
Non, alors moi j'avais décidé de prendre le jeudi après-midi, voilà, pour être tranquille. Mais au début, ça a été très dur, parce que les gens n'étaient pas habitués à ça, donc ils m'appelaient. Puis finalement, au bout de quelques années, ils ont pris l'habitude de ça.
Alors, autre chose à quoi il a fallu que votre patientèle s'habitue, c'est les prises de rendez-vous. Ça ne se faisait pas à l'époque. Hein.
Voilà. Alors, je me suis aperçu très vite que si je voulais arriver à faire de la médecine agréable pour les clients et pour moi-même, il fallait que je prenne des rendez-vous pour avoir du temps. Du temps à donner aux patients. Et les rendez-vous, c'était la seule solution pour éviter que le matin à 7h, il y ait 20 personnes devant ma porte les jours de foire.
Ça arrivait, ça?
C'est arrivé chez les autres, oui. Je me souviens chez le docteur Peralbe, le jour de foire, à 8h du matin, la salle d'attente était pleine, les gens étaient dehors. Je dis, c'est pas possible. Il y en avait qui attendaient jusqu'à midi, arrivés à midi, ils étaient un peu agacés. Donc j'ai dit, ça c'est pas possible. Donc j'ai dit, je vais prendre des rendez-vous. Le docteur Peralbe, à l'époque, m'a dit, mais Moreuil, à Argenta, ça marchera jamais, etc. Et ça a très bien marché, parce que j'ai consulté sur rendez-vous toute ma carrière.
Voilà. Place de l'Église. Hein.
Place de l'Église.
Dans la grande maison, elle est encore connue. Hein. Alors ce qui est extraordinaire quand on rentre chez vous, c'est de se dire, tout le monde est passé là. Depuis toutes ces années, en 50 ans, il est passé mais des milliers et des milliers de personnes.
Oui, c'est certain.
Sur ce bout de trottoir.
C'est certain, c'est certain, oui, oui.
Ça, c'est une belle chose. Il y a de la vie, quoi. Alors, autre chose, à l'époque, pas d'infirmière pour faire les prises de sang, vous étiez aussi obligé de faire ça, les prises de sang, vous, médecin?
Alors, à l'époque, il y avait deux infirmières à Argentat, Sœur Gérard, qui s'occupait de l'école de Goule, et puis une infirmière, la Mutualité Agricole, qui est restée infirmière, et puis qui s'est mariée, qui est toujours ici d'ailleurs, hein, qui est à la retraite maintenant, bien sûr. Hein. Il n'y avait que deux infirmières, donc elle ne suffisait pas à faire les prises de sang, donc les médecins faisaient les prises de sang et portaient le sang au laboratoire.
Alors attendez, parce que vous faisiez les électrocardiogrammes, les prises de sang, faisiez également les accouchements, c'est un autre métier que ce qu'on connaît aujourd'hui.
On faisait les plâtres aussi.
Ah, fallait faire les plâtres, oui.
Oui, il ne fallait pas faire les plâtres, mais on faisait des radiographies, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, quelqu'un tombait, se faisait mal à un poignet, on faisait une radiographie. S'il y avait une fracture du poignet, une fracture de poutre-colle banale, sans déplacement, on faisait le plâtre.
Et aujourd'hui, ça a changé, ça n'existe plus, ça.
Alors aujourd'hui, c'est impossible à faire, parce que si vous faites ça, vous avez un procès dans les mois qui suivent. Pour la bonne raison que vous n'avez pas respecté les protocoles, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que vous n'avez pas tenu compte d'un tas de choses.
Vous dites quelque chose de très important, vous dites la médecine est un art, ce n'est pas une science.
Tout à fait, tout à fait. Je l'ai toujours dit, j'ai écrit un article au Conseil de l'Ordre dans ce sens-là, il n'y a pas très longtemps. Hein. Les Grecs disaient « akratekne », l'art suprême. Pour désigner la médecine. Et comme je disais souvent, je vais paraître un peu prétentieux, mais tout le monde a des pinceaux, tout le monde a des couleurs, du rouge, du vert, du machin, mais Léonard de Vinci, il n'y en a qu'un. Eh bien, en médecine, c'est pareil. Tout le monde a la même formation, on apprend la même chose à la faculté, l'anatomie, la physiologie, la pathologie, la sémiologie, etc. Et après, chacun s'en sert à sa manière. Alors, avec plus ou moins de talent, Et ça, avec plus ou moins d'écoute, avec plus ou moins d'intérêt pour le malade, avec... De mon temps, c'était comme ça.
Vous dites aussi quelque chose d'important. Vous dites, un médecin, c'est d'abord quelqu'un qui sait écouter,
oui,
comprendre.
Oui.
Avant de toucher, avant de palper.
Tout à fait. Dans la majorité des cas, on peut faire une approche diagnostique assez précise uniquement à l'interrogatoire. Après l'interrogatoire, eh bien, il y a, comme nous avons appris à la faculté, l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation. Mais maintenant, vous débouchez très vite sur un scanner, une IRM, etc. C'est pas, alors, il y a des choses qui sont beaucoup simplifiées, comme les ulcères à l'estomac, par exemple. Et il y a des choses qui sont énormément compliquées. Et tout le monde, je pense que tous les gens qui écoutent cette émission auront eu des scanners parce qu'ils avaient une sinusite et des choses comme ça, ce qu'on ne faisait pas à l'époque.
Vous travaillez également en collaboration étroite avec les pharmaciens parce qu'il fallait fabriquer les pilules à l'époque. Ça, c'est rigolo.
Oui, alors j'ai connu cette fin de période. Moi, personnellement, ça m'est arrivé, mais exceptionnellement, de faire des comprimés. Mais en effet, des crèmes, j'en faisais faire beaucoup, des crèmes de Dalibourg, etc. Et à ce sujet-là, il y a une anecdote. Il y avait un pharmacien et un médecin qui avaient quelques questions à régler entre eux, et le médecin, pour se venger, a fait faire 60 pilules au pharmacien le 24 décembre à 6h du soir.
C'est vache. D'ailleurs,
que le réveillon de Noël a été assez compromis.
C'est vache. Le médecin de famille, tel que vous l'avez pratiqué, cette médecine, cet art, puisque vous parlez d'un art, ça faisait de vous un membre de la famille,
oui,
presque à part entière ou pas ?
Oui, je pense. Ouais. Je pense, et je le dis avec plaisir quand je me retourne sur mon passé, il y a des familles où j'ai soigné 5 générations. Vous vous rendez compte, 5 générations. Il y en a beaucoup d'enfants que j'ai vu naître, que j'ai vaccinés, qui sont médecins maintenant. Voilà. Donc ça fait plaisir.
C'était la première fois qu'elle se rendait chez lui. Le salon lilas, le vase était fleuri. Les tapis, les moquettes, étouffaient tous les pas. Et la bonne discrète, sans un mot, s'effaça. Elle connaissait à peine le nom de ce monsieur. De ses craintes soudaines, il semblait faire un jeu. C'était sa prévenance qui l'inquiétait surtout. Et devant sa méfiance, il se montrait très. Asseyez-vous, il effleura ses lèvres. Elle sentait à son cou les galops de la fièvre. Laissez-moi vous ôter ceci et puis cela. Son étonnant doigté la fascinait. Des sourires pour mieux l'hypnotiser. Elle eut beau supplier, tout était superflu. Bref, pourquoi le cacher ? Il fit ce qu'il voulut. C'est l'histoire d'amour, sans doute à prendre. C'est vous, l'histoire que chaque jour on entend n'importe où. Et là, c'est les plus tristes, la clé de ce roman. Oui, c'est
Sur ACX, Jean-Paul Moreil, ancien médecin de famille à Argentat, continue de dérouler le fil de sa vie. Alors, Jean-Paul Moreil, les horaires d'un médecin de famille, c'était quoi? On démarrait la journée à quelle heure? On la finissait quand on pouvait, à quelle heure?
Alors, on l'a démarré quand on voulait, mais plutôt de bonne heure. Alors moi, j'étais plutôt en lève-tard, donc je commençais à 8h du matin. Mais j'avais des collègues qui commençaient à 6h ou à 7h. Mais les terminer, c'est quand on n'avait plus d'appel. Donc ma femme vous dirait qu'on réveillonnait tous les jours. Elle exagère un petit peu, parce qu'elle est du midi, elle est de Voutezac. Mais on dînait très tard. Donc, à midi, j'étais toujours à la maison pour déjeuner, parce que c'était le moment...
D'accord,
où...
ça c'était important, ça.
Ça c'était important, parce que c'est le moment où je voyais mes enfants. Le soir, j'entrevoyais à la fin des consultations avant de partir refaire des visites.
Mais où on trouve l'énergie pour... Ben moi, à la fin d'une journée, je suis crevé, et s'il fallait que je recommence encore une demi-journée
ben parce que... Vous n'êtes pas habitué comme ça.
Il faut trouver l'énergie, parce que c'est quand même... Votre rôle, ce n'est pas un rôle anodin. Il y a un engagement affectif aussi auprès des
oui,
des
alors patients. Il y a un engagement affectif. Et quand on est amoureux, on n'est jamais fatigué. Je dois dire que j'ai eu la chance, la grande chance, et je m'en rends compte maintenant avec l'âge, j'ai eu la grande chance de ne jamais sentir la fatigue. J'étais jamais fatigué. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, disons que j'avais peut-être l'énergie à l'intérieur pour prendre le dessus, mais je n'étais pas fatigué. Voilà. Et puis, il y avait toujours quelque chose qui relançait.
Vous n'êtes jamais allé à reculons au boulot?
Non. Non, jamais.
Il y a eu des jours où vous avez eu la trouille, parce que vous aviez un patient compliqué ou quelque chose comme ça?
C'était très rare d'avoir peur devant un cas.
Vous avez eu le cas d'une parturiente, là, où vous n'étiez pas tranquille, quand même.
J'ai eu une parturiente qui m'a fait un sale coup.
Alors, on va expliquer ce que c'est une parturiente, parce qu'on a, en dehors des médecins, je crois que peu de gens...
Voilà, c'est une femme enceinte, voilà.
Et qui va accoucher.
Hein. Et comme je le disais à M. Vittet en rigolant, les femmes accouchent la nuit parce qu'elles ont le temps. La journée, elles font autre chose. Et là, c'était la cliente d'un de mes confrères, pas une cliente à moi. Et j'avais refusé de la coucher parce qu'elle était hypertendue, qu'elle faisait de l'albumine dans les urines, ce qui la mettait à risque énormément, ce qu'on appelle l'éclampsie. Et il n'était pas question, j'étais installé depuis 2 mois à peu près, et il n'était pas question que je fasse cet accouchement.
C'était la carrière terminée, ça.
S'il y avait un problème, je pouvais aller m'installer ailleurs, c'est sûr. Mais elle habitait à 2 pas de chez moi. Et un après-midi, je vois arriver son mari qui me dit « Venez vite, ma femme va pas ». Donc, connaissant la malade quand même, j'y suis allé. Et elle était en train d'accoucher, elle avait attendu, c'était son 6e, je crois. Et donc, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle a attendu, j'étais obligé de l'accoucher. Et j'ai eu la grande chance que tout se passe très bien.
Alors, voilà. Il faut dire aussi que si vous l'avez accouché la nuit, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de tour de garde la nuit. Et vous, avec vos collègues, au moment où vous avez vissé la plaque, vous avez décidé d'installer ce tour de garde la nuit. Et ça a été aussi... quelque chose qui a eu un peu de mal à passer, mais finalement ça s'est fait.
Alors, c'est pas été quand je me suis installé. Au bout d'un an ou deux, il y avait un autre médecin qui était jeune à Argental, le docteur Trezeguet. À nous deux, on a dit on va essayer d'instituer un tour de garde la nuit, à partir de 20h le soir jusqu'à 8h le matin. Donc on a fait une réunion avec nos collègues et tout le monde a été d'accord. Donc on a fait ce tour de garde-là. Ça devait être dans les années 74 ou 75, je pense.
Hein. Et c'était une nouveauté, ça, à l'époque.
C'était une nouveauté, oui. Je crois que c'était pas en Corrèze, il n'y en avait pas. Peut-être à Tulle ou à Brive, mais dans les villages, sûrement pas. Et les gens ont pris ça... avec assez de philosophie, finalement. Ça s'est bien passé, beaucoup mieux qu'on ne le pensait.
Donc, la nuit, ce n'était pas forcément leur médecin qui venait.
Voilà, ce n'était pas leur médecin qui venait, ce qui a diminué les appels de nuit, parce qu'ils appelaient plus franchement, plus facilement leur médecin qu'un médecin inconnu. Mais ça s'est passé comme ça, et je crois que c'était un progrès quand même pour tout le monde.
Alors, autre histoire un petit peu étonnante, un jour vous êtes appelé par une jeune femme qui avait mal au ventre.
Ah oui. Alors oui, mais c'était un soir de garde, ça. Je crois que c'était un week-end, mais c'était une nuit d'hiver. ou d'automne, enfin, il faisait froid. Et une cliente, donc, qui avait une patiente qui avait mal au ventre. Donc j'y vais, je ne connaissais pas du tout l'endroit, je m'assois à côté du lit et je commence à l'interroger pour essayer de me faire une idée. Alors l'interrogatoire que tous les étudiants en médecine ont appris, et à quel endroit, et depuis quand, et comment ça fait, etc. etc. Et au bout de l'interrogatoire, je n'avais pas du tout de notion de l'origine de cette douleur. Vraiment, ça ne collait avec rien, pas la vésicule, pas les intestins, pas l'estomac, pas etc. Bon, donc je dis, je vais l'examiner. Et elle avait, comme ça se faisait à l'époque, le gros édredon rouge en plume là, sur son lit. Donc je soulève l'édredon, j'écarte le drap, et elle était enceinte de 9 mois. Mais je dis, mais madame, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Voilà, ça change tout. Là.
Elle ne l'avait pas dit.
Elle ne me l'avait pas dit du tout.
Il a fallu la coucher, là.
Voilà, donc j'ai dit, écoutez, ça vient de là, vos douleurs. Donc je l'examine, elle était en effet dilatée à grande pomme, donc l'accouchement était en train de se faire.
Donc, vous n'aviez pas le matériel, vous n'aviez pas de cordon, pas de ciseaux, rien.
Ah, j'avais rien du tout. J'avais mon sac et mon stéthoscope et mes seringues, mais bon, point barre. Hein. Je dis au mari, donnez-moi un drap propre, de l'eau chaude, de la ficelle à poulet, de l'agnole, des ciseaux.
Pourquoi faire l'agnole? Pour la boire?
Non, pour stériliser la ficelle à poulet, pour faire le cordon. Et le mari me dit, je vais chercher ma belle-sœur qui est infirmière, qui habite à 10 km. Je dis, écoutez, avant de partir, laissez-moi tout ça. Et par-dessus le marché, à l'examen, je me suis aperçu que la présentation n'était pas bonne. Donc c'était ce qu'on appelle une occipito sacrée, c'est-à-dire que le bébé, quand il naît d'habitude, il a la nuque au niveau du pubis de sa mère. Et là, c'était l'inverse. Lui, il avait la nuque, il regardait vers le haut, le bébé. Donc c'est un accouchement qui est beaucoup plus difficile parce que la tête a du mal à passer. Il faut faire une épisiotomie, c'est-à-dire couper le périnée, etc. Bon. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était son premier en plus, c'était une primigeste. Donc je l'ai accouché, je lui ai fait une épisiotomie, tout s'est bien passé. Mais c'était assez folklorique.
Vous l'avez vu?
Ah, c'était... Après des histoires comme ça, les clients sont fidèles. je l'ai soigné, elle, ses enfants, son mari, toute la tribu.
C'est ce qu'il faut bien dire, c'est que vous êtes d'abord, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes comme un membre de la famille et parfois vous êtes appelé à faire des interventions parce que la famille ne sait plus trop où elle en est. Je pense à cette histoire, on n'était pas bien loin entre Argentat et Brivzac, d'une famille un peu affolée parce qu'il y avait un des membres de la famille qui était dans le pré. Oui. Et qui se comportait plutôt bizarrement. Alors, là. C'était chaud ce jour-là pour vous.
Alors, ce jour-là, c'était chaud. Alors ça, c'était un dimanche. Je me souviens très bien, c'était un dimanche de garde et j'ai remplacé le docteur Peralba à l'époque. Donc, je n'étais pas encore installé. Mais c'était un dimanche et on m'appelle un peu avant Brivezac. Monsieur Vité n'était pas là à l'époque encore, donc c'était pas chez lui. Oh. Et parce qu'ils avaient fait un gueuleton et qu'à la sortie du gueuleton, il y avait des invités qui étaient partis dans le pré. Ce qui n'avait rien d'extraordinaire, mais qui s'était mis à quatre pattes et s'était mis à brouter. Alors quand même, ça inquiétait les convives qui le brouta dans le pré. Donc ils m'ont appelé. Et moi j'y vais, en effet, le type était à quatre pattes au fond du pré, en train de manger l'herbe.
Il était bourré, en
fait. Mais de loin, je ne savais pas. On ne fait pas de diagnostic à 20 mètres. Donc j'escalade le clidou, j'étais jeune à l'époque, j'avais dû avoir 25 ans ou 26 ans. J'escalade le clidou et quand j'étais en train d'escalader, le brouteur se relève, prend un fusil et me tire un coup de fusil. Alors là, quand même, je me suis retrouvé à quatre pattes vite fait, et en disant aux gens qui m'avaient appelé, mais ne m'aviez pas dit qu'il avait un fusil. Ah, mais si, docteur, il tire de temps en temps. J'ai dit, d'accord. Alors, écoutez, c'est plus de bon ressort, appelez les gendarmes. Donc, ils ont appelé les gendarmes. Ma femme m'avait accompagné ce jour-là, visite. Et on a attendu que les gendarmes arrivent. Donc, ça a pris une bonne demi-heure. Et j'ai dit aux gendarmes, écoutez, vous l'attrapez, l'oiseau, et quand vous le rattrapez, moi, je le piquerai pour le calmer. Mais c'était assez folklorique. Ma fille m'a raté ce jour-là. Donc ça
heureusement, bah, voilà. Il ne manquerait plus que ça. Et toujours dans cette relation d'extrême confiance que vous aviez avec votre patientèle, hein, on ne dit pas clientèle, hein, on dit patientèle.
Tout à fait, c'est plus agréable.
C'est, oui. Ouais, puis, ah, c'est plus...
C'est moins
plus
commercial. Vrai.
C'est moins commercial. Vous avez le souvenir d'un accouchement où ça ne se faisait pas, vous étiez fatigué, c'était la nuit, et finalement, vous avez fini par vous endormir en disant à la femme, dès que
oui.
Ça se déclenche,
ah ben là, alors, c'était des clients à moi tout à fait charmants et gentils, que j'aimais beaucoup. La parturiente accouchait aussi de son cinquième ou sixième, donc elle avait l'habitude. Et l'accouchement traînait, ça avançait pas. Ça prenait beaucoup de temps, mais moi j'étais crevé, donc j'ai dit, écoutez, je me couche à côté de vous, vous me réveillez quand ça va pas. Donc j'étais couché sur le lit, hein, et quand c'était le moment, elle me réveillait, elle me disait, docteur, je crois que c'est le moment, comme ça. J'ai passé la nuit, comme ça, et après avec le mari, on a bu de la nisette, c'était très sympa.
Donc ça s'est bien fini.
Oui, ça s'est bien
le
fini.
Le bébé était beau.
Oui, tout à fait.
Ce métier de médecin de famille, on se lève à 8 heures, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord à l'hospice voir les malades, on va d'abord faire les visites, qu'est-ce qu'on fait?
Alors au début de mon exercice, il y avait beaucoup d'appels à domicile, et dans les campagnes, il y avait beaucoup de monde encore. Donc les fermes étaient habitées, il y avait les vieux restaient à la ferme avec les jeunes. Donc, et après, avec le temps qui a passé, après il y en avait beaucoup moins, donc il y avait moins d'appels à domicile. Donc le matin, je commençais toujours par la maison de retraite, par l'EHPAD.
Ce qu'on appelle aujourd'hui l'EHPAD,
avant la maison de retraite et avant l'hospice, je me souviens.
Alors c'était au Turenne, à Argentat.
Voilà, l'hospice, le Turenne, ça n'existait pas à l'époque, c'est le cinéma, et c'était l'hospice était là. Mais c'était des gens qui ne pouvaient plus rester chez eux parce qu'ils étaient trop vieux et tout seuls.
Ah oui.
Et tout seuls.
Problème de la solitude.
Donc ils étaient mis là. Bon. Et donc je commençais par l'EHPAD parce que à 8 heures le matin, les personnes âgées étaient encore dans leur chambre et au lit. Alors qu'après, on les levait, on les amenait dans les salons, à droite et à gauche. Donc je ne perdais pas de temps à les chercher, je savais où ils étaient.
Alors après, voilà. Vous aviez, alors ça c'est un petit secret de médecin, on va le dévoiler, mais vous aviez votre parcours café ensuite. Vous saviez très bien où vous alliez.
Donc dans ma matinée...
Mais ce n'était pas les bistrots.
Non, pas du tout. Alors pas du tout. Dans ma matinée, à 10h, j'avais l'habitude de boire un café. Donc les clientes le savaient. Moi, je les cadrais à 10h, autour de 10h le matin. Je les appelais mes cafetières. Et quand j'arrivais, j'avais le café qui m'attendait avec ma tasse attitrée qui m'attendait. Et elle me servait le café. Et comme ça, je restais avec elle, après les avoir examinées, mon quart d'heure à discuter de la pluie et du beau temps. Et c'était sympa. Et
c'est du bonheur, ça, non?
C'est du bonheur. Parce qu'elle me parlait de leurs enfants, de leurs petits-enfants.
Et là, on n'est plus dans la science, on est dans l'humain.
On n'est plus dans la science, mais... Si vous voulez, en buvant le café avec quelqu'un, vous voyez s'il va bien, s'il est de bonne humeur, s'il a des soucis, s'il se tient droit, s'il avale bien. Si...
On regarde.
Le médecin, quand même, continue à avoir un œil. Il y a des petits détails qui ne sont pas forcément confiés et qu'on découvre comme ça.
Autre détail, alors lui, un petit peu plus particulier, un jour où vous êtes allé en visite chez un monsieur, qui d'ailleurs braconnait un peu, a priori, vous avez trouvé, alors il était dans le lit avec le drap jusque-là, et il n'y avait pas que lui dans le lit, il y avait aussi... Non.
Oui, alors, non, mais alors c'était pas... C'était un monsieur que c'était... comme il n'y en a plus dans nos villages, c'était une vedette du village, on peut dire son nom, il s'appelait Léon. Tout le monde l'appelait, tout le monde le connaissait, et Léon se baladait toujours avec son chien, à qui il donnait toujours des sucreries. Et une fois, il m'a appelé chez lui, et il était sous la couverture avec le chien, mais avec le chien couché la tête sur l'oreiller, le drap remonté jusqu'au cou, ils dormaient tous les deux ensemble, pareil.
C'est extraordinaire.
C'était assez extraordinaire. Alors Léon, c'était un numéro qui était braconnier de fête, hein, ben quand il était plus jeune, parce que là il était vieux. Et alors, il était très gentil, il surveillait ma maison quand je n'étais pas là, et il offrait des fleurs à ma femme, mais les fleurs qu'il offrait à ma femme, il les volait au cimetière. Ce qui était quand même... ma femme le dit, tu arrêtes de faire ça, Léon. Ça, il ne faut pas faire
J'aime
ça.
J'aime pas les chrysanthèmes.
Voilà.
Et alors, pour en finir avec les personnages un peu exotiques, vous avez prescrit une pommade un jour avec une ordonnance.
Ah non, c'est pas moi. Alors, c'est pas moi, c'était le docteur Perrab qui me l'a raconté. Le docteur Perrab, dans ses visites, rencontre un agriculteur qui avait mal au dos. Et à l'époque, les médecins prescrivaient. Donc, il fait une ordonnance avec une pommade pour calmer la douleur. Et il lui donne au malade en lui disant « tu frotteras avec ça ». Bon, très bien. Et il revoit le malade 15 jours après. Il lui dit « alors ça va mieux ?» Il lui dit « ah oui, non docteur, non ça va pas mieux du tout, j'ai toujours mal. » Et « ah bon, mais qu'est-ce que je t'avais donné ?» Alors le malade cherche dans ses poches, ressort l'ordonnance, et l'ordonnance dans un état absolument lamentable, toute froissée, toute grasse, toute... Il lui dit « mais qu'est-ce que tu as fait avec ça ?» Mais docteur, j'ai fait ce que vous m'avez dit, je me suis frotté avec. C'était encore l'époque où la médecine et la sorcellerie étaient quand même cousines germaines. Et je me souviens d'un de mes clients, qui était agriculteur et qui avait très peur d'un voisin. qui lui jetait la malouque. Il lui jetait la malouque, le mauvais sort, si bien qu'il passait jamais devant chez lui avec son tracteur, parce que sinon, il cassait quelque chose.
Oh, c'est incroyable, ça.
Ah oui, oui. Très sérieux.
Quel a été votre rapport, tiens, justement, avec les rebouteux, les enleveurs de feu et autres?
Alors, avec certains, très bons, avec d'autres, pas bons du tout. Tant que les enleveurs de feu faisaient leur métier, moi, je travaillais avec. Donc, je voyais le malade, qui était brûlé. Je faisais le pansement, je dis maintenant tu vas aller voir l'enleveur de feu. Ou tu vas voir l'enleveur de feu avant et tu viens me voir après. Parce que enlever le feu, ça marchait. Et j'avais des adresses et j'envoyais les gens chez l'enleveur de feu. De ça, aucun problème. Alors les rebouteux, quand ils ne faisaient pas de bêtises, je n'avais rien contre eux. Mais quand ils faisaient des bêtises graves qui mettaient en péril l'avenir de l'articulation ou l'avenir de la personne, là, c'était autre chose. On en avait quelques-uns comme ça qui avaient fait arrêter des traitements anticancéreux.
C'est terrible.
Et les gens en sont morts, d'ailleurs. Hein. Donc, ceux-là, je n'étais pas du tout ami avec eux.
Repartons sur ACX au fil des souvenirs de médecin de famille de Jean-Paul Moreil, ancien médecin à Argentat. Jean-Paul Moreil, pour bien diagnostiquer, il faut bien observer, on l'a dit tout à l'heure, hein, et des exemples de diagnostics qui ont été importants parce que vous avez observé, vous en avez plein, en particulier un jour où une femme est arrivée avec un malade, avec son mari, totalement, on va dire aujourd'hui, à l'ouest, mais dans votre langage médical, il était désorienté. Elle ne savait pas, vous avez pensé qu'il était sous, et en fait, il a fallu que, par l'observation, vous compreniez qu'il avait quelque chose de très très grave.
Voilà, alors, ce n'était pas un de mes clients habituels, ce n'est pas un de mes malades habituels, donc je ne le connaissais pas. Et sa femme, tout à fait gentille et sympathique, me l'amène un après-midi, et l'homme était absent, il regardait en l'air, à droite, à gauche, il avait des mouvements un peu désordonnés, il était... Et j'ai cru qu'il avait bu. J'ai dit à sa femme, mais monsieur, votre mari, il a bu ou quoi? Ah non, docteur, mon mari ne boit jamais. Quand même, c'est curieux. Donc j'essaye de l'interroger, mais répondait par monosyllabe à droite et à gauche. Ça n'allait pas du tout. Donc je l'examine, et à l'examen, rien de bien particulier. Pas de signe neurologique précis, pas de réflexe aboli, pas de choses comme ça. Hein? Donc j'ai dit, écoutez, madame, il se passe un problème au niveau cérébral. Hein? Je ne peux pas vous dire quoi, j'en sais rien. Mais ça, il va falloir faire hospitaliser votre mari dardard. Et la cliente me dit, mais vous n'y pensez pas, c'était un samedi, samedi après-midi, vous n'y pensez pas, un samedi, aller à Tulle, etc. Ah, mais je dis, mais madame, c'est pas à Tulle que je l'envoie votre mari, c'est à Limoges. Parce qu'à l'époque, les scanners, il n'y en avait qu'au CHU à Limoges, il n'y en avait pas du tout...
Et là, il fallait aller regarder ce qui se passait.
Et là, il fallait aller regarder dans son cerveau ce qui se passait, parce qu'il se passait quelque chose de pas normal et de pas habituel. Hein? Et en effet, la suite a prouvé qu'il avait un hématome extradural
qui
saignait. Mais ça veut dire qu'il avait un hématome, une boule de sang entre les méninges et la boîte et l'os. Hein, et ça durait depuis 15 jours. Alors, si vous voulez, l'hématome grossissait, il comprimait le cerveau, donc ça donnait des troubles. Et puis, un hématome, ça se résorbe avec le temps. Tout le monde a eu des bleus qui disparaissent. Hein. Bon, il se résorbait, mais quand il se résorbait, ça ressaignait. Et ça recommençait. Et ça faisait 15 jours que ça durait. Voilà. Donc, on l'a opéré, on l'a sauvé la vie, il n'y a pas eu de problème et il n'y a pas eu de séquelles.
Et c'est là où il faut avoir le chouf, quoi, le coup d'œil. Hein.
Ah, là, il faut avoir le coup d'œil et puis dire, il y a un truc. Mais voilà, c'est pas se contenter de dire, bon, je sais pas ce que c'est, on verra demain. Là, il faut pas. Là, il faut dire, là, il y a un truc qui peut être potentiellement très grave et il faut y aller. Une autre fois, ce genre de choses, j'avais un de mes braves clients sur les hauteurs et son petit-fils était venu le voir avec sa fiancée. Et ils avaient eu malheureusement un accident de voiture parce que les virages de la Corrèze sont célèbres. Et ils s'étaient retrouvés aux urgences à l'hôpital. Et on les avait examinés, je crois que la fiancée avait une fracture au niveau d'une vertèbre cervicale, mais enfin sans déplacement, sans gravité. Mais elle allait pas bien et son grand-père, par alliance, me l'amène. Et je me la revois dans mon cabinet avec des lunettes noires et un bel hématome sur le front. Je l'interroge et à l'interrogatoire, pareil, ça ne donnait pas grand-chose, alors que l'interrogatoire, on en revient, est très important. Donc je lui dis, écoutez, sortez vos lunettes. Elle sort ses lunettes noires, et là, elle avait un œil qui sortait de la tête. On appelle ça une exophtalmie en médecine. Je lui dis, mais ça, ils l'ont vu à l'hôpital. Ah ben non, ils m'ont rien dit. Et elle avait un hématome derrière l'œil.
Et donc ça avait gonflé.
Ça avait gonflé, et si vous ne le soignez pas, vous pouvez perdre votre œil.
Ah oui, carrément.
Ah oui, carrément, oui. Non, mais il ne va pas tomber, vous n'allez pas marcher dessus, mais vous allez le perdre.
Dommage.
Vous allez le perdre. Et donc je l'ai expédié dardard au CHU, elle a été opérée, et ça s'est bien terminé. Mais je crois que le grand-père a porté plainte contre le service d'urgence qu'il avait vu. Enfin, ça, je ne me souviens plus.
Ouais. Après, moi, personnellement, je trouve que porter plainte contre les services médicaux, c'est gonflé, et il faut protéger ces gens-là, parce qu'ils passent leur vie à se mettre en danger. Pour nous aussi. Mais enfin, ça, c'est un aparté. Voilà.
Oui, ça, c'est un aparté. Alors, ils sont surmenés,
voilà.
Ils sont surbookés, se mettre en danger, ça, je ne prendrai pas ces termes-là, M. Vité.
Quand on prend ses responsabilités de médecin, des fois,
oui, mais
voilà, il faut y aller.
Mais oui, mais c'est notre boulot. Ouais.
Et c'est un boulot aujourd'hui qui a changé parce que la technocratie a pris le pas, en fait, sur la palpation, sur l'écoute, sur l'interrogatoire. Qu'est-ce qui reste des médecins de famille d'autrefois aujourd'hui?
Alors là, vous allez dans mon sens, là, vous le faites exprès, M. Vité.
Exactement.
Là, voilà, oui. Maintenant, on est obligé de suivre des protocoles de soins. Devant telle chose, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et ça, c'est dicté par des organismes supérieurs de bureaucrates.
Qui ne sont pas médecins.
Qui sont peut-être médecins, mais pas trop sur le terrain. Je ne sais pas. Je sais pas. Il y a des non-médecins. Hein. Je ne veux rien citer parce que ça attirerait trop d'ennui à tout le monde. Mais qui sortent des protocoles de soins. Et si vous ne suivez pas ce protocole, vous êtes en dehors des clous. Et là, vous risquez un procès.
Carrément.
Donc voilà, vous n'avez pas fait le scanner que vous auriez dû faire, donc c'est de votre faute.
On ne fait pas des économies avec ce genre de système.
Alors on ne fait pas d'économies, ça coûte très cher.
Eh oui.
Hein, sans compter que maintenant, et ça c'est... Je suis content d'être à la retraite pour ça. Les gens regardent sur Internet et quand ils viennent vous consulter, ils ont déjà un diagnostic.
Ça, c'est terrible. Moi, ça me mettrait dans une rage terrible. Ça. Vous avez connu ça ou pas du tout, les autodiagnostics grâce à Doctolib ou...
Alors, pas trop, parce que je n'ai pas la réputation d'être très facile à ce niveau-là. Donc, mais ça m'est arrivé, oui, je me souviens d'une touriste, une parisienne, qui est arrivée un samedi matin, là, en catastrophe, me disant « Docteur, je veux un scanner », avant de me dire ce qu'elle avait. Ah, il fallait un scanner, parce que on m'a déjà fait un scanner à Paris, je veux un scanner. Je dis, madame, on n'a pas des scanners comme ça, voilà. Mais maintenant, c'est pas ça. Maintenant, ils regardent et ils s'imaginent avoir telle pathologie et ils ont lu sur Internet qu'il fallait faire comme ci et comme ça et ils viennent vous dire, docteur, je veux... Presque, ils font l'ordonnance à votre place. Bon, ça, il y a des médecins qui doivent s'y prêter. Moi, je m'y prête pas et j'en connais qui ne s'y prêtent pas non plus. Et,
Personnellement, je n'en connais pas qui s'y prêtent. Je n'ai jamais vu ça.
Ah, vous demandez pas. Ah bon.
Moi, je ne demande jamais. Moi, on m'en donne, mieux c'est. Alors, ça, est-ce que vous avez un regard optimiste sur la médecine actuelle et celle qui vient?
Je suis optimiste par nature. Et je crois qu'il y a une évolution. Alors cette évolution, ça va et ça vient. Je crois que là, on est peut-être un peu dans le creux de la vague. Hein, que les médecins conformes, quand il va y avoir davantage de médecins généralistes sur la scène, peut-être que ça ira un peu mieux. Quand on aura réglé la consommation médicale, j'ai vu que le gouvernement voulait régler un tas d'histoires là, pas très populaires, il y a trop de consommation. Les gens, maintenant, il y a une hyperconsommation, ils ont un rhume de cerveau, ils courent aux urgences. Je suis désolé, on prend un peu de Doliprane en temps que ça passe. Mmh. Hein, bon, maintenant, s'il y a des signes de gravité, mais on ne supporte pas, on est dans l'immédiateté pour tout.
Alors, mais le médecin de campagne que vous avez été, il existe encore aujourd'hui?
J'espère, oui. J'espère.
Hein. Et si, alors, on va être cash, beaucoup de jeunes étudiants en médecine ou étudiante, pense d'abord souvent aux horaires, en se disant « bon, il faut que je construise ma vie de famille, il faut mieux que je sois dans le secteur hospitalier, parce que là j'ai des horaires, j'ai des rythmes, etc. » Tandis que le médecin de campagne, pas du tout. Et donc du coup, apparemment, c'est plus compliqué de se diriger vers la médecine de campagne que vers une médecine un petit peu plus technocratique et encadrée.
Alors écoutez, il y a plusieurs... plusieurs éléments qui justifient ça. Le premier élément, et là je vais aller dans le sens actuel, c'est que les médecins généralistes, les médecins en général d'ailleurs, pas que les généralistes, les médecins sont sous-payés.
Oui, notoirement. Mais, et ça étonne tout le monde, mais en fait...
Alors écoutez, je vais vous dire...
Pour 10, ans, 10 ou 15 ans d'études, c'est pas terrible.
Voilà, exactement, c'est pas terrible du tout. Je vais vous dire une chose très simple. Quand je me suis installé, avec le prix d'une consultation, ma femme pouvait acheter 2,5 kg de filet mignon de bœuf. Hein? Maintenant, il faut 2,5 consultations pour s'acheter 1 kg de bœuf.
Oui, quand il n'est pas cher.
Voilà.
Quand
voilà.
Il n'est pas cher.
Voilà, c'est tout. Oui. Donc notre pouvoir d'achat a énormément diminué. Donc regardez notre ancien ministre de la Santé, j'ai vu ça ce matin dans la presse, Olivier Véran, qui était neurologue. Hein? Et bien maintenant, il est en train de se reconvertir dans la chirurgie esthétique.
Ah oui, parce que ça rapporte en revanche.
Parce que ça rapporte, les tarifs ne sont pas fixés par la Sécurité sociale, donc vous prenez ce que vous voulez. Voilà.
Hein? Jean-Paul Morey, pour terminer, on revient en arrière, on est en 1960, vous recommencez tout pareil.
Je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce que j'ai eu une vie d'étudiant assez sympathique. Peut-être que je travaillerai un peu plus.
Plus?
Pas au niveau étudiant, vous me dites.
Ah, vous faites peur.
En 1960.
Et après,
en 63, j'ai passé mon bac. Non, je veux dire que je suis arrivé en médecine, cool. Je ne me suis pas trop fatigué les premières années. Or, les premières années, il y avait un concours. Hein, donc, j'ai attendu la quatrième année pour passer le concours. Bon. Et si je l'avais passé plus tôt, ça aurait peut-être changé mon devenir. Mais vous avez été heureux ici. Ah oui, tout à fait. Je ne regrette absolument rien.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes resté populaire. C'est-à-dire que dès qu'on vous croise, et je l'ai vu encore l'autre jour...
Ça, je ne sais pas. Alors là, pas avec tout le monde, je pense.
je connais personne qui ne vous aime pas, donc ça va être compliqué de trouver.
Mais parce qu'on nous avons les mêmes amis.
Sans doute. Et dès qu'on vous croise, on vous parle de médecine, toujours.
Bah oui.
J'ai mal là, et... Vous êtes à la retraite, mais vous prenez encore plaisir à écouter, alors non pas à diagnostiquer ou à prescrire, parce que ce n'est plus votre métier, mais toujours à écouter, avoir le conseil, le mot qui rassure en général.
J'essaye d'avoir le mot qui rassure, mais surtout de dire, bon, ce que vous avez eu jusque-là, c'est bien, c'est comme ça, c'est de rassurer les gens, de leur donner la main. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur le trottoir et lui donner la main pour qu'il traverse les clous. Moi, c'est ce que je fais. Quand je les rencontre, mais mes clients, c'est pareil. Il y a une cliente que j'ai vue hier matin, ça faisait peut-être 7 ou 8 ans que je ne l'avais pas croisée à Argentat. Elle m'a donné des nouvelles de toute la famille. Elle m'a sorti son portable pour montrer les photos de son petit-fils. Et le père du petit-fils, moi, je lui avais fait les vaccins contre la rougeole quand il avait 18 mois. Ouais. Voilà. Donc...
Pour paraphraser Maupassant et le titre d'un de ses romans, Une vie. C'est d'une vie que vous avez vécue qui est cohérente et qui est passionnante.
Oui, moi c'est une vie que j'ai passée avec plaisir. Hein. Je me suis arrêté à 72 ans. Alors je vais vous dire, je me suis arrêté à 72 ans alors que j'aurais pu sans doute, puisque le docteur Clot a pris ma suite, donc j'ai laissé mes dossiers le cœur en paix, en sachant que mes clients ne seraient pas abandonnés, et bien soignés, parce que Sylvie Clot avait été mon interne, etc. Donc elle fait de la très bonne médecine. Mais j'aurais pu continuer à travailler un jour par semaine ou deux. Mais les cotisations sociales sont telles que j'aurais travaillé pour rien. Alors j'ai dit non, il ne faut pas, à 72 ans, travailler pour le plaisir de faire du fun. Donc non, je suis désolé, non. Alors une année, ils ont supprimé ça. Je crois en 2022, ils ont supprimé ces cotisations sociales, mais en 2023, ils les ont remises.
On ne sait jamais. Si vous avez pris du service quand même pour le Covid.
Là,
vous
étiez pour le Covid, j'ai revu. Mais là, c'était gracieux.
Là, et là, vous avez travaillé comme un fou. Hein.
Ah oui, puis j'ai revu plein de clients. Là, j'étais ravi. J'étais ravi parce que j'ai vu plein de clients que je n'avais pas vus depuis longtemps.
Pour terminer complètement, je sais que vous êtes un grand fan de Georges Brassens. Est-ce qu'il y aurait une chanson qui résumerait votre état d'esprit de Brassens?
Mais je crois que le temps ne fait rien à l'affaire.
Pour retrouver cet entretien en podcast, acx-19.fr.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.